Chapitre 12. Juin 2017. Kim et Ryan quittent l'appartement de Kerri-Anne et traversent la place du village jusque chez Megs pour aller chercher Noah. Quand elle le leur apporte dans l'entrée, le bébé dort dans le siège auto. Kim ravale son exaspération. Elle avait précisé à Megs que Noah ne devait pas s'assoupir, sinon il ne serait pas fatigué ce soir. Maintenant, elle doit le réveiller, le changer et le préparer pour la nuit, mais il va être de mauvaise humeur et ne voudra pas coopérer. Megs regarde son petit-fils aux cheveux trempés de sueur avec un sourire indulgent. « Pauvre petit ange. Il était épuisé. Je n'ai pas eu le cœur de le garder éveillé. » Kim sourit d'un air sombre et attrape le cosy. « Pas grave, » marmonne-t-elle. « J'imagine qu'il n'y a rien de nouveau concernant les enfants. » « Non, rien du tout. Mais je m'interrogeais. Est-ce que Zach t'avait parlé de ce qu'il avait prévu de faire hier soir ?»« Non. À vrai dire, je ne savais même pas qu'il sortait. C'est toi qui me l'as appris. » Je ne l'ai pas vraiment vu ces derniers jours. Donc tu n'étais pas au courant pour... Kim s'interrompt, est-ce qu'elle peut gâcher la surprise? Puis décide que oui, parce que découvrir ce qui est arrivé aux enfants est plus important qu'un secret. La bague. Quelle bague? De fiançailles. Zach ne t'a pas dit qu'il avait l'intention de demander ta Lula en mariage? Megs éclate de rire.
Non, pas du tout.
Kim plisse les yeux. Elle a du mal à comprendre en quoi cette information est hilarante. Et tu penses que Zach aurait pu en parler à quelqu'un d'autre? Un ami? Son père?
Oui, ses amis, c'est possible, mais je les ai déjà tous appelés, et aucun d'entre eux ne savait où Zach était hier soir. Son père? Certainement pas. Ce n'est pas vraiment ce genre d'homme. Pas fameux pour son intelligence émotionnelle, tu sais.
Kim s'empêche de froncer les sourcils. Elle a rarement rencontré une personne aussi peu empathique que Megs. Très bien, reprend-elle en soupirant. Bon. Je vais rentrer avec le petit bonhomme et essayer de le convaincre de se réveiller, puis de se rendormir. Megs lui sourit d'un air bête. Elle n'a vraiment conscience de rien. S'il te plaît, appelle-moi si tu as du nouveau, insiste Kim. Je vais contacter la police pour leur signaler la disparition de ta Lula ce soir si elle n'est pas de retour. Tu devrais peut-être faire la même chose pour Zach.
Ils sont sans doute partis faire un petit break,
répond-elle avec un haussement d'épaule.
Mais enfin, si ça se trouve, je devrais m'inquiéter. Tu as peut-être raison.
Kim s'éloigne et regagne sa voiture en secouant la tête avec incrédulité face à cette mère et grand-mère si peu investie dans son rôle. Elle consacre la première partie de la soirée à préparer Noah pour la nuit. Comme prévu, il est plein d'énergie et finit par capituler un peu avant 21h. Kim a très envie de boire un verre de vin, mais elle doit garder les idées claires et rester sobre, parce que sa soirée ne fait que commencer. Elle est assise dans le salon. Un programme passe à la télé, elle ne sait pas vraiment quoi. Ça crie beaucoup, c'est une émission du samedi soir. Ryan est avachi dans un fauteuil, tapotant sur son téléphone, et seul le tressautement nerveux de son pied trahit son inquiétude. Elle essaie à nouveau d'appeler Talula. Une fois de plus, elle tombe directement sur la messagerie. Elle lève les yeux vers son fils. Zach t'avait dit quelque chose à propos de la demande en mariage? Elle comprend que c'est le cas au brusque mouvement de tête que fait son fils et à l'immobilisation soudaine de son pied. Hein? Hier, j'ai trouvé une bague dans la poche de sa veste. J'en ai déduit qu'il avait prévu de demander à Talula de l'épouser hier soir. Et ça collait avec la soirée qu'il avait organisée. Ouais, enfin, il m'a juste dit qu'il y songeait, mais il ne m'a pas indiqué quand il comptait le faire.
Il t'a dit quoi, précisément?
Il m'a demandé ce que j'en pensais. Genre, est-ce que je croyais qu'elle accepterait?
Et tu as répondu quoi?
Que j'en savais rien. Ce qui était vrai. Kim acquiesce. Elle consulte son portable. 21h. Ça fait assez longtemps, se dit-elle. Il est temps. Son cœur bat à tout rompre et son estomac est noué quand elle appelle la police pour signaler la disparition de sa fille. Le lendemain matin, un homme très séduisant sonne chez eux. Il porte un costume gris et une chemise crème ouverte, sa carte de police pendant autour du cou. Il sort son badge de sa veste et le lui montre.
Inspecteur Dominique McCoy, bonjour madame. Vous nous avez contacté hier soir au sujet d'une disparition.
Kim hoche vivement la tête.
Oui, oui, merci. Entrez, s'il vous plaît.
Elle n'a presque pas dormi. Elle a fini par prendre Noah avec elle dans le lit. Impossible de le calmer après son réveil nocturne. Ils ont passé le reste de la nuit tous les deux sur le dos, dans le noir, à regarder le plafond. À un moment, il s'était retourné vers elle, lui avait attrapé la joue de sa main chaude et avait dit « Ma ». Il l'avait répété 3 fois avant qu'elle ne comprenne qu'il essayait de dire « Maman ». Son tout premier mot.
« On peut s'installer ici », indique-t-elle à l'inspecteur McCoy en le guidant dans le salon. « Je peux vous proposer quelque chose à boire ?»«
Non merci, je viens d'avaler un café.
Ils s'asseyent de part et d'autre de la table basse, et Kim tend à Noah un paquet de galettes de riz pour l'occuper. « Mon collègue m'a dit que votre fille n'était pas rentrée vendredi soir, c'est bien ça ?»« Ma fille et son petit ami qui vit avec nous, » confirme Kim. « Ils ont tous les deux disparu. »« Quel âge ont-ils ?»« 19 ans tous les deux. Depuis mars. » L'inspecteur la dévisage comme s'il était absurde de s'inquiéter de la disparition récente de deux jeunes de 19 ans. « Mais ils ont un fils, Noah, » se reprend-elle. « Donc, ce n'est pas vraiment comme s'ils pouvaient décider de partir sur un coup de tête. Ce sont de bons parents, très impliqués. » Il acquiesce d'un air pensif. « Je comprends. » Elle se demande ce qu'il peut bien comprendre. Puis elle répond à ses questions concernant les événements de vendredi et de samedi. Elle lui communique l'adresse de Scarlett, de Lexi, de Megs. Elle hésite à lui parler de la bague, mais se ravise à la dernière minute sans savoir pourquoi. Au bout d'une demi-heure, il se lève. « Qu'est-ce qui a pu leur arriver, d'après vous ?»« Eh bien, pour le moment, il n'y a aucune raison de penser qu'il leur est arrivé malheur. Ce sont deux jeunes adultes qui ont beaucoup de responsabilités. C'est la première soirée qu'ils passaient en amoureux depuis longtemps. Ils ont peut-être pris goût à la liberté. »«
Non, » l'interrompt Kim. « C'est impossible. Ils ont toujours choyé leur fils. Tous les deux. Surtout ma fille. C'est ce qui compte le plus dans sa vie. »
L'inspecteur acquiesce à nouveau. « Son petit ami avait-il des comportements abusifs, selon vous ? Est-ce que vous aviez remarqué des tensions entre eux ?»«
Non, » réplique-t-elle presque trop vite, comme si elle essayait de s'empêcher de penser aux doutes qui émergent en elle petit à petit.
« Il adore Tallulah. Il est fou d'elle. Presque trop.
Trop ?»
Elle se rend compte de ce qu'elle vient de dire et se reprend. « Disons que parfois, il lui tape un peu sur les nerfs. »«
Moi, ça ne me dérangerait pas qu'on soit fou de moi comme ça, »
s'amuse l'inspecteur. Kim ferme les yeux et hoche la tête. Les hommes n'ont aucune idée des effets de la maternité sur les femmes. Certaines éprouvent le besoin de protéger leur peau, leur corps, leur espace. Quand on se donne entièrement à un bébé, qu'on lui offre tout ce qu'il est humainement possible de partager avec un autre être, la dernière chose dont on a envie, c'est d'avoir un homme dans les pattes qui exige lui aussi qu'on lui accorde de l'attention. Les hommes ne savent pas qu'une main posée sur la nuque peut être perçue comme une supplique, et non un geste d'amour, et que les enjeux sentimentaux deviennent alors trop encombrants. Beaucoup trop. Kim se demande parfois si les femmes ne s'entraînent pas à être mères avec les hommes jusqu'au jour où elles ont un enfant, laissant un vide chez leur partenaire. L'inspecteur la quitte. Il lui promet d'ouvrir une enquête, sans préciser quand ni comment. Depuis la fenêtre du salon, Kim le voit monter dans sa voiture banalisée, ajuster son rétroviseur, sa carte professionnelle, lisser sa veste, ses cheveux, allumer le moteur et s'éloigner. Elle se retourne vers Noah dans sa balancelle, qui tient une galette de riz écrasée à la main et se force à sourire en espérant que cela cachera les larmes qui dévalent le long de ses joues. «
Elle est où ta maman, Noah ? Elle est où ?»